Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi, en direct de la Porte d'Auteuil, en direct de Roland-Garros. Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Et vous avez la parole, comme tous les jours, vous le savez. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi, avec à la une le premier conseil des ministres à l'Élysée. Ce matin, vous entendrez les premiers mots d'Emmanuel Macron. Un premier conseil des ministres marqué par l'affaire Abad. Jacques Serret est en direct de l'Élysée. Des dégâts commis par des grêlons gros comme des balles de tennis dans l'ouest de la France hier soir, on va y revenir. Un témoignage très attendu cet après-midi au procès du crash de la Yémenia, le témoignage de Baya Bakari, seule survivante de ce crash. Elle avait 12 ans à l'époque, elle en a aujourd'hui 25. Le sport avec la conférence de presse de Kylian Mbappé cet après-midi. Que va-t-il dire? Cyril de la Morinerie a des informations. Et puis Roland Garros qui commence fort, on sera avec Axel May et avec Cédric Pioline qui nous dira notamment ce qu'il a pensé de la prestation hier soir de la nouvelle coqueluche du tennis mondial Carlos Alcaraz. Nouveau gouvernement, affaire Abad, pouvoir d'achat, on va en parler avec vous au 39-21. Et puis on est avec Philippe Ballard qui est porte-parole du Rassemblement National. Bonjour Philippe Ballard. Merci d'être avec nous en direct de Roland-Garros. Et puis, on est également avec Sylvain Maillard, député La République En Marche de Paris, porte-parole de la REM. Bonjour, monsieur le député.
Bonjour, Romain Desarbres.
Merci également d'être avec nous dans Europe Midi. Les membres du gouvernement d'Elisabeth Borne participent ce matin à leur premier conseil des ministres. Il s'est terminé il y a quelques minutes. On a découvert les visages de ceux que l'on ne connaît pas encore très bien. On a bien sûr reconnu les visages des piliers de la Macronie. Et avant le début des échanges, le président de la République a laissé les médias enregistrer, écouter son propos d'introduction. Écoutez.
Le gouvernement que vous constituez est un gouvernement pour agir donc, rassembler notre pays, un gouvernement qui lui ressemble. C'est un gouvernement tout à la fois de continuité, de nouveauté. Et c'est pourquoi l'action qui sera la nôtre sera tout à la fois de consolider ce qui a été fait durant les 5 années qui viennent de s'écouler. Car un deuxième mandat n'est pas un mandat pour refaire ou défaire. Non, il s'installe sur un socle solide, celui d'un bilan, d'une action résolue. Mais à l'aune des défis nouveaux, de ce que nous voyons dans notre société, de ce mandat nouveau qui m'a été confié, de pouvoir bâtir une action nouvelle sur le fond et sur la forme.
Un gouvernement pour agir, a dit le président de la République. Il faut dire que le contexte économique et international nous promet des temps agités. Jacques Serret, vous êtes à l'Élysée en direct avec nous. Bonjour Jacques.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Quel dossier Emmanuel Macron a-t-il défini comme prioritaire pour ce nouveau gouvernement? Dites-nous.
Eh bien, le président a tracé 4 grandes priorités pour le début de ce second quinquennat. L'école, la santé, la transition écologique et la lutte contre l'inflation. Et c'est ce dernier dossier qui est jugé comme le plus urgent au palais. Bruno Le Maire, qui a été renouvelé dans son poste de ministre de l'économie, était assis ce matin à la droite d'Emmanuel Macron. Il planche déjà sur des mesures visant à protéger les Français contre la hausse des prix. Et ce sera l'objet du premier texte du gouvernement examiné à l'Assemblée nationale juste après les élections législatives fin juin. Sur la table, il est déjà prévu de prolonger le bouclier tarifaire, de mettre en place un chèque alimentation, de relever le point d'indice des fonctionnaires ou encore de supprimer la redevance audiovisuelle. La revalorisation des minima sociaux et des pensions de retraite doit aussi intervenir pour cet été.
Et les premiers jours du gouvernement d'Elisabeth Borne sont marqués par une polémique, une première polémique de taille, Jacques. Les accusations de viol portées par 2 femmes à l'encontre du nouveau ministre des Solidarités, Damien Abad.
Oui, la prise de guerre du côté des Républicains, à peine nommé et déjà fragilisé. Contrairement aux autres ministres, Damien Abad ne s'est pas attardé ce matin devant les photographes au moment de gravir les marches du perron de l'Élysée. Une première femme raconte avoir eu un trou noir après avoir pris une coupe de champagne avec lui lorsqu'il était député européen. Elle se serait réveillée le lendemain à ses côtés avec le sentiment d'avoir été droguée. Une autre femme relate des SMS pressants ainsi qu'une relation sexuelle au cours de laquelle il lui aurait imposé une pénétration anale. La plainte déposée il y a 5 ans avait été été classée sans suite. Des accusations qui embarrassent la majorité. Elisabeth Borne a expliqué qu'elle n'était pas au courant avant leur médiatisation ce week-end, mais qu'elle tirerait toutes les conséquences si la justice devait à nouveau être saisie. Bref, ça fragilise aussi ce nouveau gouvernement et remet en cause les choix d'Emmanuel Macron. Un premier dossier épineux pour la nouvelle porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, dont le compte-rendu de ce premier conseil des ministres doit avoir lieu dans un peu moins d'une heure.
Jacques Serret en direct de l'Élysée. Merci beaucoup Jacques. Notez que Sandrine Rousseau et Olivier Faure demandent le départ de Damien Abad. L'un des dossiers majeurs pour ce nouveau gouvernement, c'est la hausse des prix. Les ministres sont attendus au tournant pour préserver le pouvoir d'achat des Français. Du côté de Bercy, on compte bien demander aux entreprises de participer à l'effort collectif. Bruno Le Maire reçoit les organisations patronales cet après-midi. Carole Ferry, le ministre de l'économie, devrait leur rappeler sa position déjà affirmée ce week-end face à l'inflation. Tout ne doit pas reposer sur l'État, Carole.
Et oui, parce que l'État a déjà dépensé 26 milliards d'euros pour protéger les Français contre l'inflation. Un projet de loi de finances rectificatif est d'ailleurs prévu après les législatives. La facture devrait encore s'alourdir, mais n'est pas extensible à l'infini. C'est pour ça que Bercy veut faire le point avec les grands secteurs de l'économie, et notamment les entreprises, pour que chacun participe à l'effort collectif. La CPME rappelle toutefois que beaucoup de petites et moyennes entreprises sont elles-mêmes frappé par l'inflation, hausse des prix de l'énergie et des matières premières notamment. Selon son secrétaire général Jean-Eudes Duménil, il faut aussi des ajustements de l'État.
Plutôt qu'une augmentation pure et simple des salaires, on a des entreprises qui sont confrontées à des pénuries de compétences, qui ont de l'activité pour beaucoup d'entre elles, et c'est tant mieux. Et donc, pourquoi ne pas faciliter les heures supplémentaires dans l'intérêt des salariés qui, eux, pourraient gagner davantage. Mais pour ça, on a besoin que les règles applicables sur les heures supplémentaires soient modifiées.
Et puis, concernant la prime Macron, la CPME rappelle que c'est une prime payée par les patrons et qu'il faudrait que son versement puisse être fractionné pour moins peser sur la trésorerie des entreprises.
Carole Ferry, merci beaucoup Carole. De violentes intempéries hier soir dans le centre de la France. Il y a eu de l'orage dans l'Indre et le Cher. Plus de 6000 impacts de foudre recensés en l'espace de 3 heures seulement. Dans le Berry et le Poitou, les chutes de grêle ont fait quelques dégâts matériels. Les grêlons faisaient parfois la taille, allez, d'une balle de tennis. À Châteauroux, on dénombre plus de 300 maisons endommagées. Écoutez la réaction du maire de la ville, Gilles Averrousse.
On a eu vers 23h30 hier soir un gros orage accompagné de chutes de grêle importantes, avec des grêlons de la taille d'une clémentine. Des grêlons vraiment comme on n'en a jamais connu ici, avec des dégâts très très importants sur les toitures des établissements et sur les véhicules, mais principalement sur les toitures, ce qui a provoqué des infiltrations d'eau parce que ça s'est accompagné de pluies assez torrentielles, vraiment très très violentes en peu de temps. Là, on a 33 groupes scolaires et on arrive à accueillir les enfants dans toutes les écoles, mais on peut pas dispenser les cours dans toutes les écoles encore. On a deux lycées dont on sait qu'ils vont être fermés pendant plusieurs jours. Sur des établissements, on n'a pas une tuile qui n'est pas cassée ou pas une ardoise qui n'est pas cassée. Et il y a un nombre de véhicules endommagés qui est colossal, quoi. Je pense qu'on dépasse les 1000 voitures.
1000 voitures endommagées, vous avez entendu. Gilles Averroux, le maire de Châteauroux, au micro de Solène Leroux. Midi 8, restez bien avec nous dans Europe Midi. Dans un instant, on va évoquer ce témoignage exceptionnel de la seule survivante du crash de la Yémenia. C'était en 2009. À tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Europe Midi, un témoignage exceptionnel à présent. Témoignage exceptionnel ce matin au tribunal judiciaire de Paris au procès du crash de la Yémenia en juin 2009. Une seule personne avait survécu et 152 avaient péri. Une fillette de 12 ans à l'époque, Baya Bakari, elle se rendait aux Comores pour un mariage avec sa mère quand l'avion s'est écrasé dans l'eau. Aujourd'hui, elle a 25 ans. Elle a raconté ses souvenirs, souvenirs de ce terrible crash, et Gladys Laffitte a assisté à ce témoignage.
Oui, des souvenirs qu'elle a racontés avec une force incroyable. Baya Bakari, rieuse et pétillante, raconte à la barre ce qui a commencé comme un vol d'avion des plus communs. À l'approche de l'atterrissage, les hôtesses de l'air vérifient que chacun est bien attaché. Surviennent alors des turbulences qui n'inquiètent personne. Et puis, elle ressent comme une décharge électrique. Je me sens tirée vers le haut, toujours attachée. Et après, c'est un vrai trou noir. Une fois dans l'eau, je n'étais plus attachée. Elle se réveille dans un océan agité, au goût de kérosène. Sa grippe a un débris d'avion qu'elle ne lâchera plus. Au début, elle entend des voix de femmes qui appellent à l'aide et puis plus rien. Je me convainc que tout le monde est arrivé et que je suis toute seule, que ma mère, arrivée elle aussi, n'aurait pas supporté que je baisse les bras. Une dizaine d'heures plus tard, elle est secourue. Son œil gauche, sa clavicule et son bassin sont fracturés, ses pieds sont brûlés. Mais sa plus grande blessure est la perte de sa mère, confie-t-elle très émue à la barre. J'ai repris l'avion 2 ans après. Elle était enterrée aux Comores, donc c'était important d'y retourner, conclut cette jeune femme courageuse au destin exceptionnel, souligne Tanker, le tribunal et les avocats de partie civile.
Gladys Laffitte, merci beaucoup. Gladys, cette information tombée il y a quelques instants, le premier soldat russe jugé pour crime de guerre en Ukraine, ce jeune soldat de 21 ans, a été condamné à la prison à vie. Il était jugé pour avoir tiré sur un civil non armé en mars dernier. Il s'agissait d'un retraité. La victime était un retraité de 62 ans. Ce soldat russe, donc de 21 ans, vient d'être condamné à la prison à vie. Le sport avec Kylian Mbappé qui va rester 3 saisons de plus au Paris Saint-Germain. Il l'a annoncé samedi, le Real Madrid espérait attirer l'attaquant. Le club espagnol y a cru jusqu'à la dernière minute. Alors qu'est-ce qui a fait pencher la balance ? Kylian Mbappé devrait en dire plus cet après-midi lors d'une conférence de presse. Vous y serez, Cyril de la Morinerie, bien sûr. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Vous avez déjà des informations sur ce qui va être dit ?
Alors écoutez, c'est sûr que le PSG va dérouler le tapis rouge pour Kylian Mbappé au sens propre comme au figuré, puisque la star est attendue vers 15h au Parc des Princes. Le PSG a demandé à ses supporters de venir et de réserver donc à Kylian Mbappé un tonnerre d'applaudissements. Les ultras du virage Auteuil ont également prévu de se réunir pour faire la fête. Rendez-vous ensuite dans l'auditorium du Parc des Princes avec un temps de questions-réponses avec les principaux médias du pays, dont Europe 1, en présence également du président Nasser Al-Khelaifi. On va demander au patron du club parisien si Luis Campos va bien succéder à Leonardo comme directeur sportif. Son nom revient avec insistance. Avantage, son réseau tentaculaire, ce proche de José Mourinho, avait installé Christophe Galtier, souvenez-vous, à Lille. D'autres noms circulent pour devenir le nouvel entraîneur parisien et succéder à Mauricio Pochettino, qui devrait partir. Zidane notamment, les contacts ont été établis avec son entourage, mais la piste semble se refroidir. Le journal Le Parisien évoque le nom de Ruben Amorim du Sporting Portugal. Concernant l'effectif, le chantier s'annonce également très important. Départ de Di Maria, incertitude autour de Neymar, réflexion pour renforcer le milieu de terrain. Aurélien Tchouaméni de Monaco est très apprécié, tout comme Renato Sanchez de Lille. L'émir du Qatar est attendu à Paris cette semaine pour accélérer tous ces dossiers.
Cyril de la Morinerie, merci beaucoup Cyril. Allez, toutes les informations sur Roland Garros, tout de suite.
Roland Garros 2022, l'événement tennis est sur Europe 1.
Et on va tout d'abord retrouver Axel May sur le central. Bonjour Axel.
Bonjour Romain.
La numéro 1 mondiale, Iga Świątek, est face à l'Ukrainienne Lesia Tsurenko.
Oui, Iga Świątek. Depuis le mois de février, il y a Iga Świątek, la Polonaise, et les autres, la numéro 1 mondiale qui a repris le flambeau depuis le départ à la retraite de l'Australienne Ashley Barty, fait bien plus qu'assumer son statut. 5 titres à la suite, 28 matchs victorieux consécutifs. Vainqueur pour la dernière fois en Grand Chelem, et la seule fois d'ailleurs, c'était à Roland-Garros il y a 2 ans. Autrement dit, c'est la favorite de ce tournoi. Et Iga Świątek opposée à Tsurenko, l'Ukrainienne. Et en plus, pour une Ukrainienne, avec ce qui se passe dans son pays, on imagine que c'est compliqué d'affronter la numéro 1 mondiale. Eh bien, elle mène déjà 2-0. Elle vient de breaker dans la première manche, l'Ukrainienne Tsurenko. Iga Świątek donc sur le cours central.
Merci beaucoup Axel May, on est avec vous. Cédric Pioline, bonjour Cédric.
Bonjour Romain.
Consultant Europe 1 bien sûr pour cette semaine de Roland-Garros sur toutes les questions de tennis. Les choses sérieuses commencent aujourd'hui. Il y a donc Świątek en ce moment sur le central, il va y avoir Nadal et Djokovic ce soir.
Oui, c'est une très belle journée. C'est vrai que les ténors, je dirais, les favoris sont en lice, même s'il y en a eu un qu'on peut mettre dans cette catégorie qui a joué hier, le jeune Alcaraz. Mais c'est une magnifique journée pour les spectateurs et puis pour évaluer un petit peu l'état de forme, je dirais, des uns et des autres. Et j'ai un petit doute sur Nadal quand même.
C'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qu'il faut attendre de Nadal là, cet après-midi ?
Je pense qu'il faut l'observer. Il faut l'observer, voir comment il est. Il a eu ce problème au pied qui s'est réveillé. On sait que c'est quelque chose qui est récurrent chez lui. Au mois de mars, il s'est blessé avec une côte fissurée. Donc on voit que son corps est en train de tirailler. Il aime tellement ce tournoi ici qu'il veut absolument tout faire pour jouer et se dire qu'il qu'il peut encore soulever le trophée comme il l'a fait 13 fois déjà. Mais je pense que ça va être un petit peu compliqué, surtout avec la concentration de joueurs dans le haut du tableau. Alcaraz, Djokovic et Nadal.
Alors Alcaraz, il a joué hier soir, c'est la nouvelle coqueluche, je vais pas dire le favori de Roland-Garros, mais quoique, est-ce qu'il est favori? Bon, il vous a rassuré, qu'est-ce que vous êtes dit hier en le voyant? Il a gagné son premier match.
Mais j'ai vu un jeune joueur de 19 ans qui a l'air d'en avoir 30 ans, de par l'expérience, la façon dont il a géré son premier match, alors que on peut dire qu'il arrive avec une certaine pression, un petit peu comme Nadal en 2005, hein, qui avait jamais gagné, mais qui faisait tout de suite partie des favoris. Lui, Nadal, c'était sa première participation à Roland-Garros. Pour le jeune Alcaraz, c'est la deuxième participation seulement. Et il a drivé son match d'une manière incroyable. Il a attendu la fin du premier, que l'autre lui donne 2-3 points gratuits sur la nervosité. Et puis après, il a déroulé 6-2, 6-0. C'était impressionnant. Il a déjà pris la mesure de ce cours central qui n'est pas facile. Il avait l'air d'être totalement chez lui. Donc oui, c'est impressionnant. Et puis, plein de promesses, surtout.
Plein de promesses. Merci beaucoup, Cédric Pioline. On va vous retrouver tous les jours dans Europe Midi pour commenter et nous apporter votre expertise sur Roland-Garros, bien sûr. Allez, la météo tout de suite. La météo avec Anissa Dadi, de la pluie au programme de cette deuxième journée du tournoi de Roland-Garros.
Oui, à Paris et sur une grande partie de la France d'ailleurs, hein, Romain. C'est vrai qu'on a une journée très agitée pour ce début de semaine. Alors cet après-midi, le tonnerre gronde sur la région parisienne, sur le centre et sur tout le Grand Est. Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes sont les régions les plus touchées par les orages cet après-midi. Des orages qui risquent d'être localement forts avec de la grêle, de gros coups de vent jusqu'à 100 km/h. Et puis une activité électrique assez importante. Ailleurs, ça reste humide, hein, avec pas mal d'averses sur tout le pays, sauf le pourtour méditerranéen, la Provence, la Côte d'Azur et la Corse qui restent au sec sous un beau soleil. Les températures, elles baissent nettement. On perd 15 degrés par endroit par rapport à hier. 16 à Brest, 21 à Paris et Bordeaux, 23 pour Nice, Metz et Clermont-Ferrand, 28 à Marseille et toujours 30 degrés pour Ajaccio.
Merci beaucoup Anissa, il est midi 19, restez bien avec nous dans Europe Midi. Dans un instant, on va commenter les premiers pas de ce gouvernement Borne. Premier conseil des ministres ce matin avec cette polémique, la polémique autour des accusations de viol à l'encontre de Damien Abad. Il les dément formellement, on en parle avec Sylvain Maillard, député LREM de Paris et porte-parole de l'AREM, et avec Philippe Ballard qui est porte-parole du Rassemblement National. Et avec vous bien sûr, vous appelez le 3921 et vous passez à l'antenne. Je veux vous entendre. À tout de suite.
Sur Europe 1, réagissez à l'actualité au 39-21. 50 centimes la minute.